Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Donc nous voudrions réfléchir aujourd'hui sur la spécificité de la laïcité à la française comparée aux autres rapports des États avec la religion en Europe. Et c'est pourquoi nous avons la chance et l'avantage de recevoir Jean-Paul Willem. Jean-Paul Willem, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire « Le retour du religieux dans la sphère publique vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue ». Alors je précise que vous êtes sociologue des religions, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et vous dirigez donc l'Institut européen des sciences des religions, autrement dit l'Institut Régis Debray. Régis Debray dans son rapport qui souhaitait faire passer la France ou promouvoir une laïcité d'intelligence au détriment d'une laïcité d'ignorance. Alors vous avez une caractéristique particulière, c'est que non seulement donc vous êtes dans cet institut donc qui fait la promotion du fait religieux, mais que en plus vous avez, contrairement à d'autres, une vision très européenne, parce que vous êtes très impliqué dans différentes instances européennes, dont le Conseil de l'Europe. Alors, dans ce petit livre, donc Le retour du religieux dans la sphère publique, vous faites part de votre conviction raisonnée, je vous cite, qui est la suivante : les religions sont des ressources identitaires et éthiques qui, précisément parce qu'elles représentent des forces convictionnelles, peuvent exercer un rôle positif dans des sociétés démocratiques et laïques. Alors, vous précisez bien que ce rôle positif suppose, une réinterprétation dans le langage de la raison publique des traditions religieuses d'une part, et que deuxièmement, la religion ne peut pas, ne doit pas être considérée seulement du seul point de vue du privé ou renvoyée dans la seule sphère du privé. Alors, cette position qui est la vôtre vous fait apparaître, d'une certaine façon, comme, alors c'est ça l'objet de notre débat d'aujourd'hui, et je voudrais avoir votre point de vue, comme un peu marginal ou un peu en marge ou un peu à l'écart des autres sociologues des religions. Vous dites vous-même, ce faisant, donc prenant le principe de l'apport des religions, ce faisant, dites-vous, je prends un peu à contre-pied un point de vue souvent dominant, celui qui souligne que la religion ou les religions sont des menaces pour la démocratie. Alors, je voudrais vous confronter en premier lieu, pour savoir ce que vous en pensez, à donc l'un de vos collègues, Daniel Hervieux-Léger, qui, devant le parterre des semaines sociales, donc fin novembre 2007, avait indiqué clairement, je la cite, « l'extrême dangerosité de la religion ». Et comment est-ce qu'elle comprenait cette dangerosité? Elle disait « ce risque toujours inscrit, de façon plus ou moins dormant, au cœur de toutes les religions ». Alors de quel danger parlait-elle? Elle mettait en évidence trois prétentions des religions. 1. Le monopole de la vérité et d'une vérité non historique. 2. La fabrication de communautés exclusives et excluantes, je la cite toujours. Et troisièmement, le prosélytisme tout azimut. Alors vous étiez vous-même à cette semaine sociale fin novembre 2007. Donc 1. Je voudrais savoir comment est-ce que vous réagissez face à ce propos. Et 2. Quelle est, à l'inverse, à l'encontre de cela, peut-être votre opinion sur cette dangerosité, extrême dangerosité des religions?
C'est un vaste sujet et je voudrais tout d'abord dire, puisque vous citiez le propos de ma collègue Daniel Hervieux-Léger, que les phénomènes religieux, comme tous les phénomènes sociaux et culturels, et on peut dire la même chose du politique, ont à la fois des potentiels d'altruisme, de contribution positive à la vie sociale et démocratique et des potentiels moins positifs et également des potentiels de violence, de fanatisme. Ça fait partie de la condition humaine et de ce point de vue-là, il faut considérer les religions comme d'autres activités sociales. Et ce que dit Daniel Hervieux-Léger, on peut aussi le dire du politique, on peut aussi le dire d'autres activités, y compris les pratiques sportives, etc. Bon, donc il y a un penchant des dérives violentes de fanatisme qui peuvent s'exercer dans différentes activités sociales. Faut-il le dire spécialement pour les religions parce qu'elles se réfèrent sous des formes variées à des dimensions absolues? On pourrait suivre cette pente en inclinant justement à répondre oui. Mais là, personnellement, je ne réponds pas oui à cette liaison parce qu'elles se réfèrent à un absolu, elles sont fanatiques et violentes, parce qu'il faut fortement rappeler que puisqu'il y a référence à un absolu, à une transcendance, ça produit aussi de l'altruisme, des comportements extraordinaires d'aide, de solidarité, qui peuvent aller jusqu'au martyr dans certaines situations, et que de ce point de vue-là, on peut retracer en histoire des religions des actes à la fois de violence, de fanatisme, mais aussi des actes de consécration, d'altruisme, de don de soi, car dès lors que les êtres humains mettent leur vie en relation avec une transcendance, cela aussi produit de l'insouciance de soi, du décentrement par rapport au non-conformisme ambiant, et ça produit des comportements extraordinaires, encore une fois, qui dans certaines circonstances peuvent prendre aussi une forme violente et fanatique, mais qui, c'est à mon sens un point de vue, je dirais, raisonné et raisonnable en fonction des données mêmes de l'histoire, il y a énormément de violences qui ont été produites et de fanatisme par des idéologies politiques et du totalitarisme athée. Donc voilà, je close ce chapitre et pour dire deux choses, il me semble, là je le dis carrément, que ma collègue Danielle Hervieux-Léger, d'une part, peut-être réagit plus aussi par rapport à une certaine forme de catholicisme qui a été le catholicisme intransigeant, avec son monopole effectivement de la vérité, mais que toutes les expressions religieuses, y compris le catholicisme lui-même dans ses évolutions qui sont à prendre en compte, même si, et ça je le dis d'emblée, la prétention de vérité d'une religion, il est normal et il est même sain et ça fait partie de la démocratie que la prétention à la vérité des religions entre en tension, voire en conflit avec les normes de la société séculière, que ça fait partie de l'autonomie du religieux et du politique, que l'affirmation religieuse est une critique permanente de tout risque d'absolutisation du choix politique ou de normes séculières particulières. Ça crée de la distance, du questionnement, et que l'autonomie du politique par rapport aux religions limite aussi les menées cléricales du religieux qui voudrait imposer ses normes à toute la société. Il y a une dialectique, une tension qui est le nerf de la démocratie. Mais je voudrais dire aussi que ce point de vue développé par Danielle Hervieux-Léger est un point de vue qui me semble aussi assez franco-français, je dirais. Parce que à l'échelle européenne ou internationale de la sociologie des religions, je veux dire, on observe que, je dirais, à la limite plus de décontraction par rapport à l'approche du phénomène religieux, parce que c'est quand même un trait particulier de notre situation française, de l'abord du phénomène religieux comme danger, méfiance, met en cause l'ordre politique, la démocratie, comme menace.
Alors justement, c'est ma seconde question, est-ce que le rôle positif des religions, tel que vous le développez ou tel que vous l'analysez, est-ce que ce point de vue-là est dominant en Europe, première chose, et deuxièmement, est-ce que le point de vue, l'angle de Danielle Hervieux-Léger, à savoir l'extrême dangerosité de la religion qu'il faut contenir de toutes les façons possibles, est-ce qu'il est, ce point de vue-là, dominant dans la sociologie religieuse en France ?
Il faut contenir le religieux, ça je suis d'accord avec ça. Mais je peux vous dire qu'à l'échelle de l'Europe, ce qui domine, c'est ce que j'appelle la séparation-reconnaissance. Il y a une autonomie respective du politique et du religieux, mais dans de nombreux pays, y compris dans les nouveaux entrants dans l'Union européenne, donc qui sortent d'une situation d'athéisme d'État, il y a une reconnaissance positive des contributions éducative, sociale, formatrice en général des religions dans la vie des sociétés. C'est même dans certains pays exprimé explicitement qu'on reconnaît cet apport des religions, ce qui n'empêche pas une séparation du religieux et du politique, une autonomie respective du religieux et du politique. Et donc, moi, ça me fait voir plus nettement la singularité française. Elle n'est pas dans la séparation des églises et de l'État. Bien d'autres États européens respectent cette séparation, même s'il y a les construits historiques nationaux avec des particularités, mais la France aussi en a. Il y a référence à l'être suprême dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a le cas particulier de l'Alsace-Moselle, les territoires d'outre-mer, etc. Chaque pays a un certain nombre de choses héritées de l'histoire et c'est facile de le pointer du doigt. Mais au-delà de cela, je dis que la singularité française, c'est que je pense que l'État et l'emprise du politique s'est un peu construite contre l'emprise que l'Église catholique a exercée à un certain moment sur la vie politique et sociale française et comme un peu un contre système d'emprise par rapport aux religieux dominants en France et que l'approche française garde encore la marque de cette séquence historique de la guerre des deux France, et que a du mal, mais c'est en train d'évoluer, parce qu'il y a beaucoup de signes qui montrent que c'est en train d'évoluer.
Mais justement, avant que de montrer en quoi, et c'est ce qu'on va voir pour la partie européenne, donc très impliquée dans les différentes instances européennes, pour en rester sur la particularité française, un autre représentant éminent de la sociologie des religions ou sociologie de laïcité, donc Jean Bobéro, dans ce livre, donc Le retour du religieux dans la sphère publique, vous avez un débat vif avec lui, vous répondez donc à son livre « La laïcité expliquée à M. Sarkozy et à ceux qui écrivent ses discours » de 2008 qui vous a fait réagir. Et c'est toujours intéressant de confronter comme ça des points de vue pour mieux voir où sont les lignes de partage. Et il y a deux éléments que vous soulignez de désaccord que vous avez avec votre ami, je vous cite Jean Bobéro. Un, l'idée que la laïcité tendrait à privatiser totalement le religieux et donc à l'écarter de la sphère publique. Donc vous, vous êtes contre, semble-t-il, cette première idée, premièrement. Et deuxièmement, pour Jean Bobéro, l'identité morale de la France ne comporterait aucune dimension religieuse. C'est ce que vous appelez, peut-être avec un peu d'ironie, cette immaculée conception morale de la France. Alors, est-ce que vous pouvez mieux développer devant nous ces deux éléments de séparation, de différence, d'opposition peut-être avec Jean Bobéro sur sa conception et la vôtre de la sociologie des religions.
Donc notre débat est parti de ce
amical
livre
mais vif.
Amical mais vif de ce pamphlet que Jean Bobéro a écrit à propos des discours du président de la République à Notre-Dame-de-Latran et puis à Riyad. Et j'ai répondu que je ne voyais pas en quoi la laïcité était mise en péril, le fait qu'un chef d'État dans un lieu catholique s'adressant à un auditoire catholique souligne l'apport du catholicisme à l'histoire, à la culture en France, etc. Et que ça nous renvoyait donc ce débat à précisément ce que vous mentionniez, à savoir, sous prétexte qu'il y a séparation des églises de l'État, faut-il aller jusqu'à ce qui revient à mon sens à quelque peu ostraciser le phénomène religieux comme phénomène social dans la vie publique. Je sais aussi que mon collègue Jean Bobéro était opposé à l'article du traité de Lisbonne préconisant un dialogue ouvert, transparent et régulier des autorités avec les représentants des traditions religieuses et philosophiques, au prétexte qu'il faudrait renvoyer entièrement les religions du côté des associations, la société civile. Elles en font effectivement partie, mais j'aurais tendance à rappeler que même dans la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, à travers l'article 4, la République française laïque reconnaît la spécificité du religieux, puisqu'elle attribue le statut d'association cultuelle aux représentants qualifiés d'une tradition religieuse particulière. Et donc, c'est reconnaître, par exemple, bon, ça s'est fait avec la reconnaissance des associations diocésaines pour l'Église catholique, mais c'est un point important parce que historiquement, sociologiquement, anthropologiquement, il me semble important de reconnaître la spécificité des phénomènes religieux comme phénomènes sociaux et culturels. Ce sont des enceintes de sens qui contribuent à former les gens, à structurer leur identité et leur existence. Et on aboutit à ce paradoxe qu'il y aurait, sous prétexte de laïcité et de nécessaire neutralité des pouvoirs publics, ça aboutirait à ostraciser, rendre le phénomène religieux insignifiant dans la vie publique. Et on voit quelquefois cette résistance, la difficulté, par exemple, de donner toute sa place à la reconnaissance d'un grand théologien ou d'un grand auteur catholique, juif, protestant. On l'a vu avec la commémoration autour de 500e anniversaire de Jean Calvin. S'il y avait participation publique, c'était surtout pour souligner Calvin, écrivain, enseignant, etc. Mais dès que les dimensions théologiques, ah non, voilà. Comme si, je vais dire, c'était attentatoire à la laïcité de reconnaître le religieux dans sa spécificité. Et ça, c'est un combat intellectuel que j'amène. Et en toute laïcité, la reconnaissance des spécificités du phénomène religieux qui met en relation les individus, je dirais, entre le concret de leur existence et un horizon. Alors, je dirais un horizon de sens aux trois directions du mot sens. La signification, l'orientation, une direction. Et la sensation, une sensibilité, la signification, l'orientation, la sensibilité. Et être socialisé dans une tradition religieuse, les gens reçoivent une mise en forme de leur existence où ils développent leur liberté, leur autonomie, leur approche, leur réaction à la vie quotidienne, aux défis de ce temps. Mais en même temps, ça leur donne une capacité de décentrement et donc une capacité critique, y compris une capacité de non-conformisme, de protestation, y compris en faveur de la justice sociale, y compris en faveur du souci du pauvre, du plus petit de mes frères, comme on dirait en langage chrétien. Autrement dit, ce sont des ressources convictionnelles et morales qui sont précieuses dans la vie démocratique. Et ça, ce type d'approche qui, quand je le vois en Europe, ne soulève guère de difficultés, c'est également tout à fait la ligne tout à fait claire sur laquelle est le Conseil de l'Europe, institution intergouvernementale de 47 États, qui, en toute clarté et sur la base de ses acquis normatifs, l'état de droit, les droits humains et la démocratie, reconnaissent l'apport positif que les religions peuvent avoir dans cette vie démocratique. Et je dirais, c'est encore plus nécessaire à notre époque qui représente, et c'est ce que je développe dans ce petit ouvrage, une radicalisation de la sécularisation. Les démythologisateurs ont été démythologisés. Toutes les cléricatures séculières qui ont cru prendre la place des cléricatures religieuses sont elles-mêmes dévalorisées, l'enseignant, l'homme de science, etc. Ce qui ne signifie pas ne pas reconnaître l'apport de la science, de la politique, etc. Mais tout le monde est mis sur le même plan, si je puis dire. Et donc, à mon avis, nous vivons une époque de reconfiguration des rapports entre religion, politique, société. Ce qui ne signifie pas qu'il faut baisser la garde contre tous les risques de résurgence du cléricalisme, etc. Mais mon constat de sociologue, c'est que le cléricalisme en France ne me paraît pas représenter un danger réel. Les Français sont très réactifs, et ça c'est une qualité, par rapport à toute velléité de cléricalisme. Et c'est donc en toute liberté et responsabilité que l'on peut voir, et c'est un signe de maturité de la laïcité, que l'on peut reconnaître l'apport des religions à la vie démocratique.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc notre entretien avec Jean-Paul Willem. Retrouvons donc Jean-Paul Willem autour de ce livre sur le retour du religieux dans la sphère publique vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue. Donc dans une première partie, on a essayé de voir un peu effectivement par rapport à d'éminentes autres figures de la sociologie religieuse en France, comme Daniel Hervé-Léger d'une part et Jean Maubéraud d'autre part, quelles étaient ou quelles étaient les différences que vous aviez avec eux. Il me semble qu'il y a soit un a priori positif, donc la religion, et c'est votre approche, comme réserve de sens, soit un a priori négatif, l'insignifiance dont vous parlez et la dangerosité des religions. Alors maintenant, essayons de passer du côté de l'Europe, parce que semble-t-il, et ce livre nous le montre bien, semble-t-il, vous êtes plus un sociologue européen, c'est-à-dire au diapason des autres sociologues en Europe, que d'autres sociologues, donc les deux peut-être que nous avons évoqué jusqu'à présent, qui sont peut-être plus dans des problématiques franco-françaises et moins au diapason de l'Europe. Donc dans ce livre, Le retour du religieux dans la sphère publique, vous plaidez pour une nouvelle laïcité, sortir des vieilles rengaines, laïcité de reconnaissance du religieux et de dialogue avec lui. Et ma question est la suivante. Donc nous sommes désormais avec le traité de Lisbonne. Vous l'avez évoqué, l'article 16 du traité de Lisbonne dit que les identités et contributions spécifiques des églises sont reconnues et indique que l'Union, donc européenne, maintient un dialogue transparent et régulier avec ces églises. Alors maintenant que ce traité est adopté, traité de Lisbonne, qu'est-ce que, à votre avis, cela peut changer dans la laïcité telle que nous la connaissons? Et est-ce que l'on peut imaginer que, grâce à l'Europe, cette nouvelle laïcité dont vous parlez, laïcité de reconnaissance et de religieux, puisse mieux advenir en France?
Alors, cette laïcité de reconnaissance et de dialogue, quand j'emploie le mot reconnaissance, qui a toujours une connotation forte en France, puisque la République ne reconnaît aucun culte, je précise qu'il s'agit d'une reconnaissance sociale du phénomène religieux. Ça peut avoir des traductions juridiques très différentes, comme d'ailleurs cela se fait dans les différents pays d'Europe et en France même. La République française, laïque, a signé ce traité et donc ce passage que vous venez de rappeler du traité de Lisbonne est aussi accepté, reconnu par la France. Je constate aussi, je l'ai constaté au Conseil de l'Europe à travers la représentation française qui s'est inscrite de façon positive dans la consultation des religions, dans le cadre de l'élaboration du livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l'Europe. Je constate aussi qu'à l'échelle statonationale en France, il y a des évolutions très sensibles comme la nomination de M. Joseph Maïla au pôle religion du Quai d'Orsay et que lorsqu'on voit la pratique des ministères, je constate que dans la pratique, il y a cette pratique d'une laïcité de reconnaissance et de dialogue avec les religions. On pourrait aussi citer le ministère de l'Intérieur et son bureau central des cultes. Mais je suis frappé du fait qu'en France, on n'a pas le discours à la hauteur des pratiques réelles qui sont développées par les pouvoirs publics à l'égard des religions. Il y a un décalage entre une certaine rhétorique idéologique de la laïcité et la pratique réelle de la laïcité, qui est une pratique intelligente, une pratique de reconnaissance, une pratique de dialogue. Je voudrais également prendre l'exemple très important de ce qui se passe à l'échelle locale. Les maires qui ont l'intelligence de la vie sociale concrète ont très très bien compris qu'il était intéressant, à travers des tables rondes, des manifestations diverses, d'inviter les représentants des différents cultes, y compris des humanismes athées, à diverses manifestations pour dialoguer, discuter. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la laïcité de reconnaissance et de dialogue. Et donc, sur le terrain, elle se développe, avec néanmoins quelques résistances et quelques verrous, puisque lorsque, par exemple, la communauté San Egidio fait un grand rassemblement à Lyon des religions pour la paix avec toutes sortes d'interlocuteurs, c'est une contribution positive pour la vie sociale. Bon, les collectivités locales de la ville de Lyon, conseil général, avaient attribué des subventions. Ça a provoqué des recours de quelques libres penseurs et ces subventions ont dû être rapportées car la République ne finance aucune manifestation cultuelle. Donc, on voit qu'il peut y avoir des tensions qui sont réelles et qui posent question, tout en restant dans la séparation des églises et de l'État, faudrait-il pour autant avoir une interprétation aussi rigide de non-financement dès lors qu'une dimension religieuse est impliquée ? D'autant plus, et ça frappe toujours les amis américains qui sont beaucoup plus stricts que la France sur la séparation des églises et de l'État, qu'il y a de nombreux financements indirects des cultes dans le système français et que du point de vue du financement, ce n'est pas la France qui est la plus laïque, c'est les États-Unis.
Votre plaidoyer pour cette nouvelle laïcité repose, dites-vous, sur, je vous cite, un tournant que nous pourrions constater et qui serait la suite logique de la modernité, la post-modernité, ce que vous appelez l'ultra-modernité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous mettez bien en évidence que autrefois le problème était peut-être celui plus du désancrage des individus face à leur communauté. Les individus étaient peut-être plus englués dans leur communauté. Mais maintenant, peut-être par effet de balancier, peut-être qu'on est au-delà de ces problèmes de désancrage, dans un désancrage complet des individus et donc un flottement des individus. Donc ce que vous dites, c'est que la religion comme ressource symbolique est sans doute un effet de réancrage ou une ressource nécessaire pour réancrer les individus. Alors posons la question brutalement, est-ce que la religion peut sauver la démocratie, au sens de Tocqueville, devenue un peu folle, comme le dit Marcel Gauchet?
On pourrait aller jusque-là, moi je refuserais pas d'aller jusque-là, car il faut quand même se rappeler que la démocratie, ce n'est pas seulement la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ce n'est pas simplement la reconnaissance des droits de l'homme. La démocratie, ce sont des démocrates et ce sont des gens convaincus qui ont des convictions et qui sont prêts à se mobiliser pour la défense d'une certaine configuration sociopolitique. Et donc, il ne faut pas oublier les ressources militantes que représentent les religions. Alors, on est frappé, notamment au niveau médiatique, par les radicalismes, les fanatismes, etc. Mais en même temps, le trésor de militance bénévole que représentent nombre d'associations catholiques, protestantes, juives, musulmanes, etc., le rôle joué par les mouvements religieux, par exemple l'Action catholique, dans la formation de responsables syndicaux, de responsables politiques, de responsables associatifs. Autrement dit, l'articulation d'horizons de militance, parce qu'ils sont inscrits dans un horizon de sens et dans un horizon d'espérance, je dirais. Il ne faut jamais oublier que, de façon assez diverse, dans la logique propre de leur tradition, mais les religions, en fin de compte, disent que, quelles que soient les difficultés des temps et la désespérance que ça peut engendrer, qu'il y a un avenir, qu'il y a quelque chose d'ouvert et que ça vaut le coup de se mobiliser, de ne pas baisser les bras. Donc, nous sommes, à mon sens, dans une situation un peu paradoxale. Oui, c'est vrai que les conquêtes de la modernité d'émancipation ont été extrêmement importantes, qu'il fallait que les individus conquièrent leur liberté par rapport à tous les systèmes d'emprise, que ce soit l'Église, que ce soit le village, que ce soit telle ou telle culture ou enfermement social et communautaire. Mais une fois que cette liberté individuelle est acquise, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que la liberté, c'est simplement la liberté de reprendre sans arrêt ses billes, d'être nulle part ? Et il y a une sorte de confusion dans ce que j'appelle l'ultramodernité, entre comme si être libre, c'était être nulle part, ne pas avoir d'engagement, ne pas avoir de fidélité, ne pas s'inscrire dans une tradition, parce que ça serait attentatoire à la liberté.
C'est ce que Marcel Gauchet indique quand il parle d'individualisme de déliaison.
Individualisme de déliaison. Et précisément, aujourd'hui, les références religieuses peuvent réinstaurer de la liaison et du sens. Parce qu'on a des liens sociaux en quête de sens et des recherches de sens en quête de lien, je dirais. Il y a les deux, parce qu'il y a une sorte d'individualisme exacerbé qui renvoie la référence à un sens par une recherche personnelle. Mais bien entendu qu'il faut de la recherche personnelle. Mais il vaut peut-être mieux ne pas être au chômage, avoir des atouts culturels, des relations sociales pour construire sa trajectoire. Et donc, Marcel Gauchet d'ailleurs le dit, la société que moi j'appelle ultramoderne devient psychiquement épuisante pour les individus. C'est comme si chacun devait construire à tout instant le sens de son existence et que tout était remis en cause à chaque moment. Et donc, des mondes symboliques qui, tout en respectant et permettant à des sujets, et c'est tout à fait le cas dans le monde catholique, réputé pour sa hiérarchie et une forte contrainte normative. Mais ce que je constate en tant que sociologue, c'est qu'il y a 36 façons d'assumer une identité catholique et de vivre une référence au catholicisme dans la liberté et l'autonomie personnelle. Il y a aussi un anticléricalisme catholique. Et donc, là, il ne faut pas prendre, je dirais, les religions uniquement à travers leurs prescriptions normatives ou magistérielles. Il faut voir ce qu'il en est des individus et des groupes religieux et de ce qui se passe concrètement sur le terrain.
Il y a un autre aspect que vous développez dans votre livre, donc il y a effectivement cette désaffiliation sans doute excessive de l'individu et qui a besoin de se réancrer, première chose. Et deuxièmement, vous dites, il y a autre chose qui est là, le flot de la mondialisation qui pousse l'individu un peu à ce flottement. Donc il y a un effet de prise en tenaille entre l'individualisme d'un côté, le côté local, et puis le côté de la mondialisation, ce que vous appelez la glocalisation. Voilà, articulation du global et du local qui est difficile. Donc, est-ce qu'on peut dire que le retour du religieux, si retour du religieux il y a, est une réponse, ou serait une réponse, ou est une réponse à ce double flottement de l'individu trop libre jusqu'à ne plus savoir quelle est la réponse qu'il doit donner à sa propre existence pour ne pas se référer à des modèles anciens, d'une part, et deuxièmement, une mondialisation qui le fait flotter, d'une certaine façon, dans une époque, une ère liquide, comme dit Zygmunt Bauman, qui l'amènerait à ne plus très bien savoir qui il est.
C'est sûr que le défi de la mondialisation, qui n'est donc pas seulement économique, médiatique, mais aussi symbolique, culturelle, religieuse, bouscule les identités individuelles, les identités nationales, régionales, etc. Et que la tentation peut être, et on le voit aussi bien en politique qu'en religion, des réactions protectionnistes, souverainistes. Et je vois d'ailleurs se développer le souverainisme en politique comme le souverainisme en religion, avec des phénomènes un petit peu de redurcissement d'une certaine orthodoxie catholique, protestante, juive, musulmane, etc. Donc ça, c'est un petit peu réactif, c'est l'identité-défense. Mais il n'y a pas, comme Manuel Castells l'a montré, il n'y a pas que l'identité-défense, il y a l'identité-projet. Et moi, je suis très sensible au fait, Paul Ricoeur aussi le développe très bien avec son concept d'identité narrative, que pour être un sujet autonome, on a besoin d'une identité. l'identité et qu'on a une approche souvent négative de l'identité. Ça enferme, c'est le communautarisme, etc. Mais on a besoin d'une identité pour être libre. Et en particulier, s'inscrire dans un récit, identité narrative, et construire un projet à partir de quelque chose. Et donc, dans cet univers à la fois fortement individualiste et mondialisé, les religions représentent, on pourrait dire, des, comme disait Heinrich Heine, des patries portatives. Des patries portatives où, dans un monde individualisé et mondialisé, c'est une sorte d'enceinte, de point de repère qui permet à l'individu de se mouvoir, de se construire, alors que l'accentuation du pluralisme à tous les niveaux est très déstabilisant et demande une boussole comme sur Internet pour ne pas se perdre dans le réseau en tant qu'individu. Et c'est là que les socialisations religieuses et ce qu'offrent les religions représentent, à mon sens, un atout dans ce type de situation. Alors, c'est encore une fois, ça peut aussi produire des enfermements communautaires et des dérives sectaires, etc. Nul ne songe à le nier, mais sous prétexte qu'il peut y avoir ce type de dérive, ne soyons pas aveugles aux ressources que représentent ces ancrages dans des religions. Je dirais, il y a une émission où il y avait à la télévision des racines et des ailes. L'individu a besoin aussi bien de racines et des ailes. Et c'est peut-être justement le fait d'avoir des racines qui peut aussi lui donner des ailes. Je lutte beaucoup contre cette opposition stérile et contre-productive entre des ancrages religieux qui ne constitueraient que des risques d'enfermement, de communautarisme, et un universalisme abstrait. On ne se rend pas compte qu'en restant au niveau d'un universalisme abstrait, on contribue à la sectarisation, à la communautarisation du religieux. Et c'est précisément en convoquant les traditions religieuses, et ça Jürgen Habermas le reconnaît également fort bien, dans la sphère publique, la discussion publique, le débat public, que l'on contribue à les construire dans une dialectique d'affirmation, de questionnement, de confrontation. Et on a besoin de ce débat, surtout dans une conjoncture où il y a des immenses défis, qu'on pense aux défis climatiques, écologiques, énergétiques, qu'on pense aux défis concernant la bioéthique, où il y a des décisions essentielles qui sont à prendre sur la façon dont on conçoit une vie humaine digne et que les différentes traditions religieuses et philosophiques sont bienvenues dans ce débat fondamental. Il y a un retour à l'agenda du débat public, je dirais, de questions anthropologiques fondamentales.
Eh bien écoutez, Jean-Paul Videm, merci beaucoup pour cet éclairage et qui laisse à penser effectivement que si la laïcité positive telle que voulue par le président Sarkozy venait à se développer plus encore en France, cette laïcité positive serait d'une certaine façon une manière de se mettre au diapason de la laïcité telle que vue ou telle qu'envisagée ou telle que pratiquée par le reste de l'Europe. Donc je renvoie nos auditeurs à ce petit livre tout à fait passionnant, tout à fait synthétique et qui nous ouvre sur des horizons en particulier européens qui ne sont pas très connus pour le grand public. Donc ce livre, Le retour du religieux dans la sphère publique vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue, publié par les éditions Olivetan. Jean-Paul Villem, merci.
Merci beaucoup à vous.